Apéro spécial week-end de folie.
Week-end bien, bien chargé en match de basket. Parce que ce premier tour de play-off est un des plus serrés. Honnêtement, il va y avoir 3 Game 7 ce week-end. Faut qu'on regarde. On en a eu des premiers tours bien violents. Mais entre le nombre de la 3 Game 7 plus 3 autres séries qui se sont donc terminées à 4-2.
C'est la première fois depuis 2014 qu'on a un premier tour de playoff aussi chaud.
En fait, il n'y a que le Thunder 4-0, les Suns et quand même les Spurs qui ont quand même mis 4-1 aux Blazers. C'est quand même dans une manière assez autoritaire.
Un mois, là.
Ouais. Assez autoritaire. Sinon, toutes les autres séries avec des physionomies très différentes. Très hein, bien évidemment que ce qu'ont fait les Knicks aux Hawks équivaut à un sweep. Hein. Voilà. Si la femme des Hawks vous dit le contraire.
Alex et moi, on s'est fait sweeper au premier tour.
Oh la vache!
Non, c'était très très chaud.
C'est très très chaud. Et après, il y a plein de configurations différentes.
Ouais.
Et la nuit dernière, on est le symbole.
Absolument.
On a tout eu en une nuit. Hein. Il y a tout eu. Un comeback de grand malade mental.
C'est le genre de nuit qui nous rappelle à quel point on kiffe NBA.
Ah, c'est comme ça. Le meilleur joueur de la ligue qui dit bonjour, je suis le meilleur joueur de la ligue. Non, je rigole.
L'âge n'est qu'une histoire de chiffres.
Voilà.
On parlera avec LeBron.
C'est dans la tête.
Exactement.
Uniquement. Jamais dans les jambes.
Il l'a toujours dit, LeBron. C'est dans la tête. On espère que vous allez bien. Que le week-end démarre fort. Ça va être un gros week-end, notamment avec 3 Game 7. L'idée de cette petite vidéo, évidemment, c'est de revenir sur ce qui s'est passé hier soir, d'enchaîner sur les 3 Game 7 de ce week-end. Ce samedi soir, Celtics Sixers. Demain, Pistons Magic. Et on terminera avec nos amis les Raptors en déplacement à Cleveland. 3 Game 7, ça va être la régalade. Je préfère prévenir tout de suite, c'est un long marathon avec Trash Talk. Vous le savez, on est là tous les jours avec vous, donc pas de match commenté ce week-end. Je préfère être très très clair. On garde l'énergie aussi là pour la suite parce que ça va être un gros gros run de playoff là.
Ouais, on va plutôt se focus aujourd'hui sur ce bon petit débrief. Ensuite, on va se focus à partir d'aujourd'hui sur de la preview.
Ouais.
Qu'on va vous essemer au fil du week-end. Au fil de nos tournages.
Même jusqu'à lundi. Hein.
Au fil de nos tournages. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué.
On peut
déjà
pas avoir de preview.
Les Cavs et les Pistons s'affrontent et jouent un game. Enfin, s'affrontent. Les Cavs et les Pistons vont faire des Game 7 à la maison et sont favoris pour s'affronter en demi de conf. Voilà, c'est la phrase ça. Mais donc, du coup, tu peux pas faire la preview de cette série.
On ne peut pas encore tourner Raptors Magic.
Tant que les Celtics ou les Sixers, donc c'est cette nuit. Tu peux pas encore tourner la preview, donc si vous voulez, voilà, on va aller au fil de l'eau, comme on dit. Hein, voilà, on voit ce qu'on a.
L'Ouest fait le travail. Ouais. Et alors, donc on a déjà deux séries à l'Ouest qui sont sûres. Vous aurez aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, la preview de Spurs Wolves.
Oui,
c'est sûr et certain. Et si vous êtes sage, demain vous aurez un petit Lakers Thunder. Je rappelle aussi en info que Spurs Wolves ça démarre lundi soir et que Thunder Lakers ça démarre mardi.
Alors, quand il dit lundi soir, c'est dans la nuit de lundi à mardi.
Le lundi soir, vous pouvez être excité pour le match qui va venir.
Le lundi
dans la
soir
nuit,
aux États-Unis, dans la nuit pour nous.
Voilà, absolument.
Donc on a un peu de temps pour regarder tout ça et les previews. On peut rester focus sur cette fin de premier tour. C'est ça qui est cool aussi.
Absolument. Et donc, déjà, on espère que vous allez regarder ces matchs parce que Celtics Sixers, c'est à 1h30 du matin et demain, on a à 21h30, je crois, le Pistons Magic suivi par Cavs Raptors. Ouais. Donc ça c'est bien.
Je sais pas quoi penser de cette série Pistons Magic.
Moi je sais.
Je tombe de haut à chaque fois.
Je pense que les fans d'Orlando et de Détroit ne comprennent pas non plus ce qui se passe trop, mais bon.
C'est comme ça.
Rentrons dans le vif du sujet.
Vas-y.
Il y a une équipe hier soir qui a fait le travail. Il y avait 3 Game 6 et il y a une équipe qui a dit
non.
On n'aura pas de comeback pour l'éternité. Il y avait 3-0 Lakers. On est revenu à 3-2 avec 2 bons matchs des Rockets. Mais le patron a dit non. Victoire des Lakers. Ferme, sûr, nous sommes les darons, vous êtes les petits, 98-78, on va revenir sur cette victoire et qualification des Lakers pour le tour suivant. On aura donc Lakers Thunder. Alex, quand on a vu ce match arriver, on avait un très très gros gain de confiance pour des Rockets qui étaient menés 3-0, qui avaient vécu ce Game 3 atroce à domicile, mais qui s'était bien récupéré avec le Game 4, avec cette victoire dans un match serré à Los Angeles en Game 5. On avait parlé de cette belle prestation des jeunes dans le Money Time.
Ouais.
Et là, on s'est ramené à Houston avec de la pression, le devoir pour les Lakers de faire le boulot, parce que tu voulais pas rentrer avec une série à 3-3.
Il y avait de la pression sur les deux équipes.
Et oui.
Les Rockets, la pression de se faire éliminer. Les Lakers, la pression de pas gagner encore et de devoir rentrer à la maison pour jouer un Game 7 face
Tout
à des petits jeunes. Certes, un peu genre grande bouche en conférence de presse et tout, mais depuis deux matchs, ils avaient envoyé des choses sur le terrain. Bon, il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion dans ce Game 6.
Et dès le début du match.
Ce que je veux dire là, on va vous parler après des deux autres Game 6 qui avaient lieu donc, dans la conférence Est.
Oui.
Des matchs avec des physionomies très différentes.
Avec des finishes un peu différents.
Des physionomies très différentes, mais il y a eu discussion.
Tout à
tu
fait.
Vois, là, les Lakers sont allés à Houston.
Ouais.
Et ils sont arrivés. Et le score final de ce match, c'est plus 20 Lakers. C'est le score du match. C'est normal. Il y a, plus, normal. 20. Y a plus 20. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, il y a eu un run de fin. Non, dès le début du match, les Lakers prennent les choses en main.
Très grosse défense. Moi, j'ai adoré la défense des Lakers. Sur le fait de retrouver un niveau défensif des Lakers à l'image de ce qu'ils avaient fait au tout début de la série. On a retrouvé cette agressivité.
Tout à fait. Il faut d'ailleurs, on va commencer par là. Allez-y, faites des recs, préparez les recs. Vous ne m'entendrez pas souvent et tout. DeAndre Ayton fait une vraie série. Et ça s'est vu encore sur ce match.
Ouais.
Non mais, attends. Pardon, genre moi en tant que fan des Suns ou les fans des Blazers, bon les fans des Blazers sont pas allés en playoff avec Ayton, mais tu vois genre voilà, ça faisait un petit moment quand il est motivé là comme là, déjà il commence par la moisson au rebond, donc c'est quand même un gros rebondeur bien boulimique, c'est-à-dire le mec même quand il est pas motivé il en prend 10, donc quand il est motivé bah il en prend 16. Ou 18.
Et au dernier match, il y a eu du gros double-double aussi.
Mais ça fait deux fois de suite là. Hein. Ouais. Là, il a pas le double-double parce qu'il met que
7 points,
mais il y a 16 rebonds.
Ah ouais.
Si il met des lancers, il y aura eu double-double.
Exactement, parce qu'il a 3 sur 7 au lancer, hein, l'affreux. Mais il a vraiment bien verrouillé le rebond défensif. Et en fait, si j'insiste tout de suite là-dessus, c'est parce que tu as raison de parler de défense. C'est vrai, Marcus Smart, DeAndre Ayton a fait les efforts.
Tout le monde était au diapason.
Rui, tout le monde. Même Austin Reeves, tu
Austin
sais
Reeves
quoi
Austin Reeves qui a été réinstauré dans le...
Réinstauré titulaire, ouais. Et puis du coup, Luke Kennard, ça lui fait du bien de sortir du banc. Mais ce que je veux dire, c'est que la présence de Ayton et aussi, par exemple, un mec comme LeBron ou Marcus Smart, les deux, ils viennent beaucoup se battre au rebond, a permis à Los Angeles, non seulement ils défendent bien les Rockets, mais en plus, ils leur enlèvent un de leurs points forts qui est le rebond offensif. Et donc il y a eu un vrai effort stratégique, tu sens que c'était une consigne, bien poser les écrans, DeAndre s'il te plaît sois concentré, sois sous le cercle, LeBron, Smart, tout ça, venez tous aider, Rui, Hachimura, Jackson Hayes et tout, c'était une consigne importante. Ces Rockets ne shootent pas bien, donc on va défendre bien, mais surtout on ne les laisse pas se remettre en confiance avec des rebonds offensifs. Non mais c'est vraiment, c'est hyper important. Et Ayton, là-dedans, a forcément, vu qu'au match dernier, il en prend 17 et là, il en prend 16, c'est important. Quoi.
Grosse moisson, tout à fait. Pas laisser trop de seconde chance. 54 rebonds à 45 pour ces Lakers. On est revenu sur
Tu te rends compte, ils ont plus 9 au rebond.
Non, c'est énorme. Je trouve qu'on a revu des éléments dont on avait parlé et dans la preview en début de série. Tu sais, quand notamment on discutait pendant la preview de cette capacité de plan de jeu, parce qu'il y a, on parle beaucoup des joueurs, mais je trouve qu'un des très très grands vainqueurs de cette série, c'est JJ Redick, qui a mis un plan de jeu formidable quand Kevin Durant était là pour venir le doubler, faire lâcher la balle, créer vraiment du chaos dans l'attaque des Rockets. On l'a vu, hein, l'attaque des Rockets a été en difficulté tout au long de la série. Il y a eu vraiment un seul gros match sur lequel ils ont pu être libres.
Ouais.
Sinon, ça a été difficile, même dans la victoire à Los Angeles. C'était un match de tranchées.
Très difficile.
Ça a été très compliqué. Et ces Lakers-là ont fait vraiment un effort défensif énorme où on a retrouvé les bases du début de série, où en fait les remontées de balles sont compliquées, les installations sont difficiles, on vient doubler au bon moment, on essaye de faire attention aux bonnes match-up, donc quitte à se faire sanctionner, je te laisse peut-être Harrison ou un autre essayer de nous sanctionner parce que les pourcentages sont meilleurs sur d'autres garçons, donc on va voir ce que ça peut donner, on va essayer de venir bloquer Sengun pour pas qu'il ait justement ses espaces.
Et il n'y a pas KD, hein, donc on peut me dire ce qu'on veut.
Bien sûr.
Je sais, KD ceci, Burner cela et tout...
Ça reste Kevin, you know why. Hein.
Genre, quand même, pour organiser et attaquer sur la longueur de la série, je pense que c'est quand même une absence qui... Quand tu vois les pourcentages au tir hier
des Rockets j'allais venir.
Parce que la défense des Lakers, c'est bonne. T'as raison, ils gênent la remontée de balle et tout. Mais il y a quand même des tirs vraiment ouverts, laissés d'ailleurs presque...
C'est ce que j'ai envie de dire. Hein,
ouais, non, mais c'est ça. Non, mais
ils savent dans les pourcentages qui on va laisser ouvert.
Oui, mais du coup, c'est... Concrètement, voilà, c'est là où l'absence de KD pèse lourd, parce que t'es obligé de le remplacer par Tarizon ou un peu plus de minutes de Shepard ou d'Amen Thompson. Enfin, on s'en fiche en fait. Enfin, tu vois, genre, t'es obligé de le mettre dans une rotation où, bah voilà, les Lakers ne vont pas hésiter. À combien il est, Reed Shepard?
Alors, il est 1 sur 10 à 3 points, 4 sur 19 au tir, parce qu'on lui a donné aussi.
Attends,
le pauvre. Déjà, feu vert pour Reed Shepard, qui est très très jeune et à qui on a dit, grosso merdo, excusez-nous du peu, mais. Sur simple pick and roll, une fois que Kevin Durant n'est pas là, qui est la meilleure option balle en main de cette équipe? On a pu voir avec Amen Thompson ce dont il est capable.
Mais c'est pas un joueur de pick and roll, mais c'est Shane
Goon. C'est ça. C'est-à-dire vraiment balle en main, en capable de mettre des shoots. Et il avait montré, Reggie Shepard, en fin de match à Los Angeles, qu'il était capable balle en main de créer des situations où il peut créer son propre tir. Là, il est à 1 sur 10 à 3 points. Et les Lakers jouent sur ces pourcentages aussi. C'est-à-dire que Houston, tu le sais, n'est pas une équipe extraordinaire à 3 points. Si on défend bien et qu'on bloque le rebond, on va voir si ces Rockets sont maladroits. 5 sur 28 à 3 points hier soir, les Rockets. C'est un match que tu prends si t'es les Lakers tous les jours.
Tous les jours, et ils l'ont fait, d'ailleurs, et de 20. Donc c'est une très belle histoire. Mais c'est dans ce sens-là où je vais dire, voilà, là, sur la longueur, l'absence de Kevin Durant t'enlève cette régularité au tir et donne cette option défensive aux Lakers d'avoir quasiment toujours sur le terrain en face un mec que tu laisses ouvert.
Ouais.
Minimum.
Tout à fait.
Donc voilà, les Lakers ont vraiment fait le boulot. J'ai parlé d'Ayton, t'as parlé de Smart, je suis complètement d'accord. J'aime bien aussi le retour d'Austin Reeves. J'aime bien le fait que Kennard puisse sortir du banc, ça lui va quand même beaucoup mieux, ça lui met moins de pression.
Merci pour service rendu sur les trois premiers.
J'aime bien la série de Rui Hachimura, mine de rien.
Super, super.
Et puis bon, bah pardon,
tu vas parler de LeBron.
Parce que voilà, le meilleur joueur de la série, c'est LeBron James.
Oui.
Non mais attends, c'est le meilleur joueur de la série. Genre, et c'est pas comment dire. C'est pas vraiment un débat, c'est pas vraiment une comment dire, c'est pas vraiment close comme
non,
on dit dans le jargon.
Non.
Ah non.
Non, mais pas
ah
tout.
Oui, non, pardon, je suis
Non, je suis d'accord.
Tu dire aussi c'est serré.
Ah non,
non,
c'est
pas
du tout
serré.
En fait, je
pense que le meilleur joueur de la série.
Indéniablement, c'est le meilleur joueur de la série. On en parlait pendant la preview, je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation autour d'un éventuel duel avec Kevin Durant.
Bon, il n'y a pas eu lieu,
on l'a pas eu parce que peut-être que l'écart aurait été du coup un petit peu plus serré parce que
cas,
KD faire ça LeBron. On sait que ça peut donner des grosses choses malgré notamment les doubles teams envoyés par les Lakers sur KD. Mais LeBron, on en parlait justement dans la preview, avait un challenge hyper intéressant là à saisir, c'est si vous nous laissez l'opportunité, je vais m'enfoncer dedans avec mes gars sur des choses, comme on a dit, défensivement très simples. Ce sont des Lakers assez nasty qui reviennent sur des principes très défensifs là autour de JJ Redick parce qu'ils n'avaient pas trop le choix avec l'absence
choix,
d'Austin Reeves, avec
de
l'absence
Doncic.
De Luka Doncic. Ouais. Et donc LeBron montre que s'il faut agresser offensivement et créer des différences, je peux le faire. S'il faut finir à l'arceau, malgré les risques que ça comporte sur son âge et ses kilomètres, je le fais. On avait dit au match dernier, il y a un peu moins les cannes et donc 0 sur 6, je crois, à 3 points, on avait dit, ça rentrait pas trop.
Ça allait mieux hier.
Là, hier, c'était formidable dans tous les choix. Quarterback qui envoie des passes extraordinaires en contre-attaque.
Quel passeur.
En fait, on ne sait plus quoi dire autour du mec tellement il est fort. Les Rockets, malheureusement, de par ce contexte d'absence de KD, ont entrouvert une porte, parce que toi et moi, on a dit victoire des Rockets sur ce premier tour. Hein.
Ah non, mais moi, je l'ai déjà dit dans un débrief, c'est clairement la série où... Les autres séries, après, les pronostics sont jamais parfaits. Mais là, c'est la série où pour la physionomie de la série, moi, je ne l'avais pas du tout.
Oui, non.
Pas
comme,
du tout.
Comme beaucoup de gens...
Au-delà même du résultat. Hein, je parle vraiment de la physionomie du truc. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, on parle de LeBron. Moi, il y a un truc. Parce que le LeBron capable de contrôler le jeu, qui, quand il met ses tirs, ça devient injouable et qui fait des pures passes et qui met tout le monde en confiance, qui rend les autres meilleurs. Ça va, on le connaît. Ça fait 23 ans qu'il est là. En revanche, par rapport à la régulière qu'il avait faite, à son âge, au fait qu'il a besoin de s'économiser et tout, là, franchement, je trouve qu'il a montré aussi l'exemple dans le combat, dans le hustle. Il s'est arraché, tu vois, tu parlais du Game 3, là, il se jette par terre pour avoir des balles. Là, clairement, quand ton leader de cet âge-là, icône du basket, il se donne comme ça dans une série, qu'est-ce que tu veux faire?
Tu suis,
et du coup... C'est vrai que pour Redick, c'est incroyable d'avoir un mec comme ça, mais pour Austin Reeves, pour Rui Hachimura, pour Ayton, pour Smart, pour Kennard, pour le jeune Thierro et tout, pour tous les joueurs, enfin Laravia qui a été pas si mauvais hier, tu vois, genre pour ces mecs-là, c'est génial en fait. Donc là-dessus, grande série du papy.
Grande série du patron. Qui rappelle qui c'est, et c'est vrai qu'on retrouve aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce qu'en fait notamment les Lakers s'étaient fait sortir au premier tour par les Wolves l'année dernière.
Oh, puis salement, hein,
et puis
il s'était fait violenter. Hein.
Il s'était fait violenter et pour le coup moi ce que j'aime bien là avec ce LeBron dont on parlait en preview, je l'ai en joueur à suivre, c'est quand LeBron se retrouve en situation, certes il est fatigué, mais en situation physique sans trop de graves pépins qui le...
Il n'est pas blessé,
donc de le retrouver à ce niveau-là physique. Et de comprendre que ce mec, lorsqu'il a 4 matchs à gagner, arrive à piloter sa franchise, ses coéquipiers. Parce que là, ça a une gueule aussi. Moi, j'ai bien aimé certains qui l'ont mentionné dans la série. Pardon, hein, mais ça a aussi un peu une gueule de 2018 ou certaines saisons où LeBron, tu regardes le supporting cast et tu te dis putain, il va passer le tour, il va passer le tour. Et oui, on le prend pour acquis, mais le mec a un niveau extraordinaire. Le challenge va être totalement différent sur le tour suivant parce que tu affrontes le champion en titre avec une défense monumentale et une capacité offensive meilleure que les Rockets. Mais chapeau, chapeau Lakers, chapeau LeBron. Moi, je veux bien voir les gens qui avaient avant la série mis dans leur braquette Lakers win.
Oh, il y en a.
Parce que ça, franchement, chapeau.
Il y en a.
C'est du bon boulot. C'est du très bon boulot.
Très bon boulot.
Et Redick, encore une fois, moi, je suis.
Bien joué, Redick. Il n'y aura pas de match 7 dans cette série.
Non.
Il y aura un Thunder Lakers qu'on va preview, là, comme on vous a dit, dans pas longtemps.
Absolument. Voilà. Avant de faire transition, si les fans des Rockets sont dans le coin, je suis désolé, mais la punchline, elle est présente.
Ouais. Si vous voulez, on a quelque chose pour vous entraîner au tir.
Vous entraîner. Il y a les copains de Décathlon.
Ouais, c'est une vidéo avec nos potes de Décathlon en playoff. Il y en aura quelques-unes.
J'étais obligé avec Alex de vous mettre cette belle promo sur un panier de basket sur pied déporté spécial Dunk Réglable. Voilà, c'est le B700. Vous pouvez retrouver le lien en premier commentaire. Si vous voulez, avec les beaux temps qui arrivent, vous mettre un petit panier de basket. C'est facilement réglable, pliable. On en a déjà testé notamment et c'est vraiment c'est du bon matos.
Le B700, c'est le prix entre guillemets que j'appellerais intermédiaire. Il est à 300, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Il est à 300, sachant qu'en plus il y a
un B900 qui est nettement plus cher, mais qui est encore plus sensation professionnelle. Ce sont des paniers où la planche, nous on les a testés avec Bastien, la planche, le cercle et tout.
Je peux dire que j'ai testé la planche.
C'est assez agréable. Il y a aussi toute une gamme de paniers moins chers chez Decathlon. La gamme est de plus en plus large de paniers de basket. Donc voilà, nous aujourd'hui on vous met celui-là en avant, mais fureté sur le site, vous allez voir, il y en a plein.
Absolument, et vous le voyez, je l'ai mis en haut, un French Days.
Puis on a mis des chaussures là dans le décor aussi. On espère que ces chaussures-là feront les playoffs
un jour.
De ces quatre.
Tout à fait, je vous mettais là juste en haut. Pardon. Les French Days, il y a moins 10 euros offerts tous les 100 euros d'achat en ce moment sur le site de Decathlon.
Ah,
donc
oui.
Voilà, vous pouvez foncer, c'est en petit, en rouge. Regardez, je vous le remets.
Oui, c'est vrai, t'as raison,
si vous souhaitez,
pas vu.
Information importante oui, oui. Pour ceux
10
qui veulent
euros
se faire
tous
plaisir.
Les 100 euros, ok.
Voilà.
C'est 10% quoi.
Exactement. Donc vous pouvez foncer. Tous les 100 euros, 10 euros.
Plus ou moins quoi. Pas tout à fait, parce que
voilà.
ça dépend.
Donc les fans des Rockets, allez-y. Et tu sais quoi?
Ouais.
Sans transition, le Orlando Magic.
Ah, bien. Alors, vas-y,
remets
les paniers. Remets les paniers.
Au secours.
Oh, au secours.
Au secours. Alors, on doit parler, évidemment.
Alors, attends,
de
ça
ce
dépend
match.
De quelle mi-temps tu parles.
Je vais parler de la deuxième.
Parce que la première.
Eh oui.
Attends.
Je remets le contexte, comme ça, je vais
c'est
te lancer, évidemment.
Dinguerie.
Là-dessus. Orlando menait 3-1 dans la série. On avait un 3-1 lead avec notamment nos amis de Détroit qui étaient en difficulté. On était à Bordeaux. On avait vu un très beau Game 3 remporté au finish par Franz Wagner et Paolo Banchero. On se demandait ce que ça allait donner pour ces Pistons de retour à la maison. Ils avaient forcé un Game 6. On s'est retrouvé à Orlando pour voir s'ils allaient forcer un game set. On se demandait si Franz Wagner allait jouer. Il n'a pas joué. Et le début de match est vraiment, la première mi-temps est totalement dans le sens du Magic. On se dit, Orlando va finir le travail. Il y a combien? Il y a plus de 20 points d'avance.
Il y a 24 en début de troisième. Il y a 22, si je ne dis pas de bêtises,
tout
à la mi-temps.
Roule.
C'est-à-dire qu'il y a 60 à 38.
Il n'y a aucun problème.
Je répète, il y a 60 pour le Magic à 38. C'est-à-dire que non seulement 60 points à la mi-temps pour le Magic, c'est vraiment intéressant.
Et une honte pour les Pistons.
Et c'est pas bien pour les Pistons. Et surtout, pendant ce temps-là, genre, les Pistons, ça, ils galèrent en attaque, la défense du Magic est en place, ils mettent que 38 points, tu vois. Genre, il pourrait y avoir 60 à 53.
Non,
il y a 60 à 38.
Ça a été un très gros moment, on en reparlera pour les Pistons, parce que on est tous obligés là de cracher sur le désastre d'Orlando hier au tir. Mais je trouve que ce sera intéressant aussi de mettre en lumière ce qui s'est passé là pour les Pistons défensivement sur la deuxième mi-temps. La façon dont ce groupe aussi a pu affronter un challenge énorme. Hein. Tu es mené de plus de 20 points à l'extérieur. Si tu perds ce match, tu es en vacances. Grosse réaction des Pistons.
Grosse réaction des Pistons. On avait déjà vu les Spurs avoir une grosse réaction au match 4.
Au Grand Rex, tout à fait.
Au Grand Rex. Où ils étaient menés de 18.
Ouais, à 18 à la mi-temps.
Quand même, à l'extérieur aussi. Hein.
Ouais, donc pour finir par l'emporter de 15.
Voilà, c'est ça. Bon, bah ça ressemble un peu.
Ouais, ça, non, mais encore
ça,
plus large.
Non, mais ça ressemble en termes mathématiques.
Ouais, ouais.
Bah ça finit à 14. Hein. Tu vois, c'est de moins 24 à plus 14.
Oui, et la pression en fait était différente. C'est-à-dire que
ah oui, non,
les Spurs seraient à 2-2.
Ils seraient à 2-2 s'ils perdaient.
Voilà, s'ils perdaient, ils étaient à 2-2. Et s'ils gagnaient, ils étaient à 3-1.
Les Pistons, s'ils perdaient, ils étaient à Cancun.
Oui, oui. Et on aurait fait une miniature différente parce qu'en fait, on aurait eu un match cracra de qui tu veux, encore de Jalen Duren. Et on se serait dit, bon, bah qu'est-ce qui se passe quoi.
Voilà, le match de Jalen Duren d'ailleurs est cracra. malheureusement pour lui encore dans cette dans ce match, mais surtout là, ce qu'il faut vraiment, il y a pas mal de choses à noter. Le premier, c'est effectivement, t'as raison, côté Pistons, ils s'y sont mis. Tout d'un coup, il y a eu un déclic. Ils ont commencé à rentrer quelques tirs. Ils ont commencé à proposer des stops. On a vu le Magic s'enliser dans une insistance de shoot à 3 points ridicule.
Oh là 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 là.
Ridicule. Ils ont tout d'un coup, ils ont oublié tous leurs principes. Là, ça a arrêté d'aller au cercle. Ça a commencé à artiller. Je veux dire, tu vois Jalen Suggs ou Banchero. Jusqu'à maintenant, il avait fait une vraie bonne série. Alors là, ce match 6, c'est chaud.
4 sur 20 au tir.
Très compliqué.
0 sur 9 à 3 points.
C'est surtout le 0 sur 9, en fait, qui fait chier. Parce que arrête les 3 points dans ce cas-là. Alors que lui, il ne s'en rende pas compte. Ok, c'est un jeune joueur et tout, mais ça fait chier. Attention, ça fait chier qu'il ne s'en rende pas compte. Mais qu'il n'y ait personne pour lui dire, là, dans tout le staff, là, ça sert à quoi de payer 14 personnes dans les staff NBA s'il n'y en a pas un pour dire à Paolo Banchero, gros, oh. Bon, je vais voir avec Mosley s'il peut te dessiner quelque chose. Lol. Mais s'il te plaît, arrête de pull-up de loin.
Je comprends et je suis d'accord parce que ça a été un désastre.
Quand même.
C'est le... Non mais bien sûr, je dirais contre ça, ça a été désastreux. Ce qui est juste étonnant, c'est que 48 heures plus tôt, et c'est parfois le penchant aussi des joueurs qui deviennent chauds un peu momentanément à 3 points, Paolo Banchero est chaud sur le game 5 à 3 points notamment. Et donc, ça lui donne une forme de confiance qui malheureusement se retourne aussi contre lui. Les choix ne sont pas bons. Mais ce sont des shoots aussi qui ont été pris sur le match précédent.
Complètement.
Et
ça,
qui
j'entends.
Sont rentrés, tu vois, à Détroit.
Ça, je l'entends.
Ce qui n'enlève pas la qualité mauvaise des tirs là sur le Game 6.
Ce Magic, c'est la troisième fois qu'ils vont en playoff avec ce noyau. Il n'y a pas tout à fait les mêmes joueurs, mais ce noyau. En tout cas, avec Banchero en leader. Il manque Wagner. Ok, c'est clair, ça se voit. Il y a quelques moments.
Gros
mais manquement. En première mi-temps, tout le monde dit oh là putain, ils sont en train de faire ça sans Wagner. Donc à un moment donné, il faut aussi voir les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y avait moyen
fort.
Sans Wagner. Et moi, ce qui m'embête vraiment. C'est plutôt le côté entêtement alors que t'as encore de l'avance. C'est-à-dire que quand les Pistons commencent à actionner, ça commence à rentrer et il y a quelques stops et l'écart, au lieu d'être à 24, tout d'un coup, il est à 14, il est à 12. Tu vois, très très vite là, c'est allé très très vite. Et que ça se voit que les Pistons, ils recommencent à y croire, même à l'extérieur, ils se ressoudent. Ils y vont possession par possession. Ils stop et derrière ils font un stop et derrière on s'applique en attaque. Cunningham, Tobias Harris, quel match encore de Tobias Harris, quelle série, tout à fait d'accord. Et donc c'est important et dans ces moments là c'est là où le Magic on sait pas trop comment les jauger parce qu'autant ils nous ont fait une assez bonne série tactique, assez bonne franchement défensivement, ils ont John Duran passe encore un mauvais moment, enfin c'est une vraie série tactique, ils font archi chier les Pistons, c'est tout. Mais par contre là ça éclate complètement, ça se désunit, il n'y a plus de mouvement de balle, il y a beaucoup trop d'isolation, de hero ball alors qu'ils n'ont pas forcément les joueurs pour du pull up, n'importe quoi. Jalen Suggs aussi,
Jalen Suggs, parce que honnêtement je sais on va pas faire un classement des joueurs qui
j'ai quand même commencé par Banchero parce qu'hier il y en a pour lui
hier il y en a beaucoup pour lui, mais j'avoue que Jalen Suggs qui parfois on l'a sur le curseur a l'impression de se prendre, c'est un petit peu, il est un peu dans le range anciennement Marcus Smart c'est aujourd'hui Dion Brooks de laissez-moi, je vais innover totalement.
Tu n'es pas Jalen Brunson,
exactement.
Tu es Jalen Suggs.
T'es Jalen Suggs. Et en fait, les choix hier, t'as des situations de fin de match où t'es à quelques points, même
c'est
de retard.
Mais oui.
Quand Détroit repasse devant, t'as des choix de Jalen Suggs où tu te dis, mais frérot, tu penses qu'on joue à quoi? C'est du pick-up basketball?
Non, c'est
si on perd, on va à Détroit en Game 7. Les choix sont atroces. Tu sens en plus d'ailleurs qu'il y a comme tu le dis, il y a personne pour lui dire à lui aussi à ce moment-là, qu'est-ce que tu branles?
En fait,
qu'est-ce que tu fais mon gars? Tu es meneur de jeu. C'est même pas comme si t'étais parfois, tu sais, pour un Dion Brooks qu'on critique, c'est pas le relais du coach sur le parquet. Jalen Suggs est censé être un des relais du coach sur le parquet. C'est le relais de rien du tout. C'est vidéo gag. Hier, il a pris des shoots. Tu peux faire une mixtape. C'est atroce.
C'est atroce. Et t'as raison, il y a personne pour lui dire et tout. Et c'est d'ailleurs là l'une des grosses différences entre les deux équipes. Il y en a une qui a de la confiance, qui fait pas une bonne série, hein, les Pistons. Ils font pas une bonne série, mais ils sont encore en vie. Et qui a la confiance liée à tout ce qu'ils ont proposé en régulière. Qui a confiance en son coach. Coach qui est on l'a suffisamment critiqué, genre pas un si grand tacticien que ça. Qui en revanche sait saisir les moments, a de l'expérience et sait motiver son équipe. Ce côté, On y va possession par possession. On prend les attaques les unes après les autres. Objectif, faire des stops, gratter, revenir. Moins 18, moins 16, moins tout d'un coup, bim, moins 13, hop, moins 11. Tu vois, je veux dire, on gratte dans tous les sens. Ça, c'est très Pistons cette année. Alors que en grande difficulté, ils ont tout mis. Alors que le Magic, lui, dès que ça a commencé, a pu aller dans son sens. Ils ont mis combien de points déjà en deux?
19. Killingham a mis 19 points dans le quatrième quart-temps. Orlando en a mis 19
en deuxième mi-temps. Et ça, t'en parlais. Toi, t'en avais parlé dans la preview. Moi, j'étais un peu plus sceptique. Mais toi, t'en avais parlé dans la preview. T'avais dit, ouais, attention Orlando, parce qu'à tout moment, s'il y a un bâton dans la roue, ça peut partir en vrille. L'avait pas trop vu encore depuis le début de la série. Là, par contre, la deuxième mi-temps du Game 6, c'est exactement ça.
Et pour autant. Là, la tendance, et c'est normal. Hein,
volé en éclats. Ils ont volé en éclats.
Bien sûr, la tendance, et on vient de le faire là, c'est de démolir le Magic parce qu'vraiment, ils se sont tirés une balle dans le pied. Et qu'en plus, tu avais l'occasion de sortir un numéro 1 de la conférence Est et d'aller en demi-finale. Là, donc, tu vas devoir te taper un Game 7 à Détroit. De l'autre côté, côté Pistons, tu viens d'en parler par rapport à Jimmy Bickerstaff. Moi, il y a vraiment deux, trois choses sur lesquelles je souhaite les applaudir. Premièrement, on sait qu'il y a eu des gars qui avaient quelques minutes de jeu et il fallait qu'ils donnent bien. Paul Reed, il y a eu du gros 3 de Duncan Robinson sur la fin de match, il y a eu du très gros Tobias Harris. Il faut aussi comprendre ce qu'on a avec Kate Cunningham. C'est un mec, en fait, il y a 3-1 dans la série, il vient de lâcher 45 points en Elimination Game et il en lâche 32, dont 19 dans le quatrième quart-temps.
Magnifique.
En quatrième quart, je répète pour les gens qui sont au fond, ils étaient menés 3-1, le franchise player a mis 45 points à domicile pour sauver la saison. Et ensuite, dans un match qui a mal démarré, il a fini mais en trombe et puis, pour sauver la série.
Au global, son match est très bon. Hein. Il y a pas que son money time.
Non,
hein.
Mais tout à fait. Mais c'est
mais
ça,
oui, oui, t'as raison.
ça monte en diesel avec Cade.
C'est clair.
Les choix ont été excellents et donc un mec qui met sa franchise comme ça sur son dos, c'est énorme. Ausar Thompson, la série aussi de Ausar, parce que sur la deuxième mi-temps, si vous la regardez, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 Ausar Thompson sur le terrain. Les pauvre quoi en face. Wendell Carter Jr. il se retrouve seul sous l'arceau. Moi je me dis Orlando va passer à plus 3. Ausar, je sais pas, c'est un personnage Marvel. Hein. Le mec il arrive, il part de la ligne de fond, il vient contrer Wendell Carter à l'assaut, il finit sur le cul et après il est en contre-attaque. C'est exceptionnel le travail de Ausar Thompson.
La présence d'esprit, se placer en défense et tout, ce qui est dommage et chiant, et d'ailleurs Orlando l'exploite au maximum qu'il peut, c'est que effectivement de l'autre côté du terrain, t'ouvre complètement Ausar Thompson.
Ouais, bien
parfois
sûr.
Il laisse presque les draps, c'est un truc de fou. Et donc ça marche plutôt
ça
bien.
Ça marche contre le Orlando Magic.
En fait, le problème, c'est ça un peu aussi pour les Pistons. De toute façon, déjà il y a un match 7 à jouer, donc maintenant il faut se qualifier les Pistons par contre.
Oui.
Là, si t'as fait tout ça et que tu vas perdre le 7 chez toi,
on va y venir.
Là, c'est hyper bizarre, on va y venir. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que il y a un côté yes et tous les Pistons, il y a aussi un côté inquiétant. C'est que
Cette série est inquiétante hein.
Genre la première mi-temps, faut pas l'oublier. C'est nul à chier, la première mi-temps des Pistons. Ok, le Magic est un peu en feu et sa défense marginale, c'est nul.
Je pense qu'il y a d'ailleurs pas beaucoup de fans de Détroit qui sont. Il y a du soulagement du fait
d'aller. Il y a du soulagement, mais je pense
pas
qu'ils soient en train de.
Personne n'est rassuré par ce qui se passe avec Détroit.
Ça, c'est sûr que je pense pas qu'ils soient en train de crier victoire partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience. On voit les autres séries à l'Est. Ça joue mieux dans toutes les autres séries.
Oh oui.
Même gère la Cavs Raptors, qui est parfois bizarre, ça joue mieux. C'est un meilleur niveau de basket.
Game 7. Aujourd'hui, on est clair et net, Détroit a survécu le 3-1 lead, va jouer à domicile et Orlando a laissé passer une occasion de fou en finissant la deuxième mi-temps.
Ils ont passé l'occasion.
Ils ont passé the occasion. Détroit finit le travail à la maison ?
Pour moi, oui.
Tu penses que c'est serré cette affaire ou est-ce qu'on va être dans la continuité de Orlando en fait qui finit en...
Il y a moyen que ça ne soit pas serré. C'est possible. Ça dépend. En fait, ça va dépendre... Là, ce que le Magic a fait en entame de match aux Pistons, si c'est les Pistons qui font un truc comme ça au Magic, je vois pas du tout les Magic s'accrocher dans le match.
Je vais dire Pistons win aussi, en tirant la langue. Je pense que ça peut être un peu plus serré, j'espère, parce qu'on veut aussi du Game 7 à horaire français, mais ça peut être un blowout. Hein. Desmond Bane qui sort de sa boîte, certains gars qui essayent de mettre quelques shoots.
Ils vont bien défendre et tout, mais là quand même ils ont pris un petit coup sur la caboche. Et surtout là les Pistons savent aussi ce qu'il faut pas faire en entame de match. Tu vois, à un moment donné, très important, je dirais même honnêtement, les Pistons doivent le gagner, évidemment.
S'ils avec la manière.
S'ils perdent ce match 7 à la maison, c'est genre, qu'est-ce que c'est que ce délire
c'est que cette série.
Genre, et avec la manière, je suis d'accord pour dire quand même, oh, oh ça y est, on est en route.
On s'est extirpé d'un, ouais.
On est en route.
Et on s'est extirpé d'un sacré piège, ouais, tout à fait. T'avais 4-3
J'avais 4-3 pistoles. J'avoue que,
mais alors,
pour le coup, vous voyez, c'est tout le côté vicieux des pronostics. J'avais 4-3 pistoles, mais alors, cette physionomie de série, par contre, on en était très loin.
Il y a très très peu de séries sur lesquelles on avait physionomie, mais on en reparlera. Moi, j'avais.
Aussi, quand même, regarde, la Spurs Blazers, on l'avait bien. La Thunder Suns, on l'avait bien. On avait tous les deux, tu vois, la domination du Thunder. C'était pas dur. Franchement, la Knicks Hawks, on l'avait bien, en fait. Moi, j'avais dit 4-1, mais j'ai une victoire d'écart, mais en fait, franchement, les Hawks.
Dans la façon dont la série s'est discutée.
Les Knicks étaient très au-dessus, c'est ça que je veux dire. Et oui. Ça s'est confirmé.
En fait, sur les trois premiers matchs, il y a eu une vraie hésitation. Moi, je pensais qu'il y aurait 2-1 Knicks et peut-être que les Hawks tiendraient, tu vois. Mais vraiment, au bout de trois matchs, tu sais, on était en viewing party. Il y en a qui disaient, ça se trouve, Atlanta peut le faire. Mais
les
après,
Hawks
on a
sont
vu
mieux
ça
résisté peut-être que ce qu'on aurait cru. Mais on était quand même dans un truc, tu vois, voilà, si tu veux faire le bilan. Après, la Celtics Sixers, moi, j'avais parlé d'un truc serré. Je pense, les Sixers dépassent les attentes que j'avais en eux, mais je trouve qu'ils sont dans la continuité.
Ouais,
ils font exactement chier les Celtics là où il faut.
Celle-là, elle est
violente. Donc voilà, donc non, cette série, au niveau du score, elle va être dans le range de. Non, toi, Marc, non, toi, t'avais dit que les Pistons, ils avaient tabassé.
Moi, j'avais dit,
Moi,
j'avais dit, vu qu'il n'y a pas les Hornets en face, ça devrait être tranquille, ils vont gagner 4-1. et vraiment, je le redis, on en reparlera dans les previews, si les Pistons passent en avant ou sinon, ce sera un gros débrief. Jamais je n'aurais pensé, après la régulière qu'ils ont fait, que Détroit aurait proposé cette série-là jusqu'ici. Vraiment, je trouve que toutes les inquiétudes et les déceptions sont en tout cas confirmées sur ce premier tour, à eux de sauver leur saison sur 48 minutes.
Ok.
On enchaîne. Il y a eu un autre match hier qui a eu un finish. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier Décathlon, les arceaux à Toronto, parce qu'il y a un petit gimmick sur les shoots qui atteignent le plafond retombent.
Le shoot de RJ.
Après le shoot de Kawhi, Tyrese Haliburton, je sais pas si t'as eu le tweet magnifique qu'il a envoyé.
J'ai même pas vu, tu vois.
Bah, en fait, pour beaucoup de gens, c'est une Tyrese Haliburton désormais, ce shoot qui atteint tout le haut.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, il a envoyé deux minutes après le shoot, tiens, cette action me semble familière. Enfin, tu vois, donc les gens ont adoré. C'est très très drôle. Parce
c'est vrai que ça ressemble
Tyrese.
Plus au shoot de Tyrese qu'au shoot de Kawhi. Shoot de Kawhi qui lui avait rebondi plusieurs fois sur le cercle et tout.
De Kawhi. Hier soir, Game 6 avec nos amis de Cleveland qui étaient en déplacement à Toronto. On avait vu un Game 5 avec un gros quatrième quart. Dennis Schroeder, Evan Mobley, Jalen Tyson, des incertitudes sur Donovan Mitchell. On est allé à Toronto et là j'ai trop hâte de parler avec toi parce qu'on finit en overtime avec une victoire exceptionnel des Raptors sur un shoot miraculeux de RJ Barrett, mais il y a
ils étaient à moins 1 hein.
Tout à fait, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match.
Perdre, hein,
ils
pouvaient perdre, c'était éliminé.
Oui.
C'était non mais il faut bien avoir le contexte.
Je te propose justement qu'on aille pour ceux qui ont pas vu le match, je vous invite à regarder le replay parce que c'est assez fou, mais qu'on aille quand même jusqu'à cette moitié de quatrième quart-temps où Toronto mène de 7-8 points.
Toronto contrôle le match.
Et Toronto a le match en main.
Toronto contrôle le match. Là, j'ai noté dans mes petites notes, on est à moins 11 sur un panier de Harrison Barnes, n'importe quoi, de Scotty Barnes. Sur un panier de Scotty Barnes, on est à plus 11 Raptors. Il y a 96 à 85. Il reste 8 minutes 45 à jouer. Donc, c'était bien. T'es là et tout. Et là. Donc on est dans la continuité d'un match qui est quand même contrôlé par les Raptors avec des Cavs qui ont du mal à rentrer leurs 3 points, même les tirs ouverts, hein, comme quoi le côté les 3 points qui rentrent ou pas c'est quand même très important.
Donovan Mitchell bien verrouillé.
Donovan Mitchell pas dedans, ouais. Tu vois, et qui va justement montrer que les Cavs peuvent faire des gros runs, peuvent tout d'un coup se réveiller. C'est-à-dire que tout d'un coup on a Donovan Mitchell drive. Kick out corner ou non, c'est Harden d'ailleurs.
C'est Harden pour
kick
Dean
out
Wade.
Corner pour Dean Wade. Là même, il y a un stop et après il y a la même action ou quasi pour Donovan Mitchell
pour
dans le corner.
Et il y a aussi
c'est la même.
Ouais.
Donc là, bim bim, en l'espace de quelques actions, bouf, tu te retrouves, t'étais à plus 11, en fait, t'es à plus 5. C'est pas du tout la même chanson. Ensuite, t'as ce petit drive avec layup de Donovan Mitchell. On se dit, ça y est, Donovan Mitchell.
Avec un super écran d'Evan Mobley.
Et super écran d'Evan Mobley. On va reparler du finish d'Evan Mobley, ce qui a plein de choses intéressantes.
Oui. Et moins intéressantes.
Et contradictoires à dire sur lui encore une fois. Mais clairement, sur la fin du temps réglementaire, le duo Mobley-Mitchell, Mitchell-Mobley, ramène les Cavs. Pas tout seul, hein.
Oui.
Il y a des stops et tout, mais en attaque. Il les ramène, ça pose des gros écrans. Mitchell, il est incisif. Le panier pour aller en prolongue, c'est le drive de Mobley, la main gauche. Là,
c'est
Mobley. Hein.
C'est la mismatch sur Colin Murray Bowles, voilà. De Evan Mobley.
Mismatch.
Il est plus grand, il est plus long, oui, il voilà, est All-Star, il est sur un rookie.
Voilà, oui, je suis d'accord.
Sur
mais,
le papier.
Voilà, mais c'est un bon, il fait une série quand même, l'autre. C'est pas...
Colin Murray Bowles, c'est énorme, mais je veux dire,
il était pas. Oui,
sur
oui.
Le plan dernière possession.
Non, mais je comprends, mais il est pas sur Jacoby Walter, quoi. Tu vois, c'est non, pas une vraie mismatch.
Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan, quand on voit l'excellent travail qui est fait sur James Harden jusque là, notamment Jamal Chet qui prend des fautes, mais qui essaie de bien contenir avec Jacoby Walter la paire de guards. C'est vrai que pour le coup, on a Evan Mobley qui se retrouve avec un rookie devant lui qui est un peu plus long et il en profite.
Il en profite
pour mettre en hauteur
et
main gauche.
Il pose bien le dribble,
super...
il emmène l'épaule, il y va agressivement vers le cercle, il égalise à 104-104, c'est le panier qui les emmène en prolongue.
Oui, et il y a un élément parce qu'en effet, tu parles de l'attaque, il y a des choses qui se débloquent. Moi, ce que j'ai beaucoup
aimé.
Et il
y a des stops entre les deux. Hein.
Et ça, c'est ce qui m'a marqué le plus avec ces Cavs sur la fin de match, c'est qu'ils étaient vraiment moins bons défensivement et il y a eu des choses qui ont été laissées pour ces Raptors. Mais sur la fin de match et l'overtime,
ils ont serré les rangs.
Défensivement, Cleveland fait le boulot. Ça passe par un aspect dont on avait parlé, je ne sais plus si c'était la précédente vidéo ou une des précédentes, mais. On a le double big line-up. On a Jarrett Allen et Evan Mobley avec Dean Wade.
Et on donc, a Jarrett Allen qui se donne au rebond.
Exactement. Et donc, tu sais, on en parlait. Moi, je souhaitais qu'il y ait un peu plus de ces Twin Towers-là sur le parquet. Et donc, on voit Jarrett Allen qui fait des très bons close-out au buzzer sur Jamal. C'est Jamal Shed, je crois, qui shoot un peu au buzzer.
Oui, Jamal Shed.
C'est Jamal Shed. On a Evan Mobley qui est présent, qui fait une super fin de match. On arrive en overtime. Et tu sens, moi, je sens à ce moment-là devant le match, j'étais devant là en direct, que. Cleveland,
c'est un overtime que Cleveland doit prendre.
Ils doivent le
même
prendre,
à l'extérieur.
Tu es, enfin, pardon, hein, mais Cleveland, c'est franchement tirer une balle dans le pied avec cette fin de match. Il y a eu des erreurs vraiment très 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 difficiles à digérer pour les fans des Cavs.
Le layup de Mitchell qui te met à 110-108 plus 2, il reste une trentaine et quelques de secondes. Et là, tu te dis, ok, ils auront une possession derrière, donc faut bien défendre, au pire envoyer un mec sur la ligne des lancers et marquer derrière, tu vois.
Oui.
Et là, ils ont chié ces 30 secondes là alors qu'ils y étaient, les Cavs, après avoir été menés, comme on le dit, pendant 3 quarts temps et demi, quoi.
C'est ça, c'est la remontée de balle, je crois, de Schroeder avec la balle perdue pour
Donc il y a ce layup de Mitchell qui met à, je crois que c'est 110-108 si je dis pas de conneries. C'est quoi le score final? Oui, c'est ça, 110-112. Et après, derrière, il y a défense des Cavs, il y a Jamal Shed qui drive, il essaye de faire un truc de pivot autour de Allen et il y a deux lancers.
Ouais.
De lancer, il fait que 1 sur 2, Jamal Shed. Donc, tu es toujours devant. Tu as la balle et tu es devant. Tu es les Cavs, tu as Donovan Mitchell.
Avec des temps morts restants.
Tu as James Harden. Avec des temps morts restants. Tu as la balle, d'accord, et tu es devant. Tu t'attends à ce que l'équipe adverse soit agressive sur la remise en jeu.
Oui.
Tu t'attends à devoir trouver un de tes gars et qu'ils vont essayer d'être agressifs sur la mise en jeu, puis... ils vont faire faute.
Oui.
C'est la logique, hein, tu vois. Voilà, vu l'horloge, ils vont faire faute ou en tout cas ils vont travailler. Est-ce que je crois pas que tu pouvais aller au bout de l'horloge? Je crois qu'il y avait plus de 24 secondes.
Non, oui. Il y avait 25, 26, un truc comme ça.
Ouais.
En fait, il y a eu du jeu de possession parce que notamment Donovan Mitchell score, il reste plus de 35 secondes pour avoir le 2 for 1. Et après, je crois que la faute sur Jamal Shed, il doit rester peut-être 26 secondes ou un truc comme ça. Et
Il
faudra que je revoie. Mais je sais qu'il y a pas mal de chrono encore restant.
Et après, pour moi. En tout cas, il y a plus qu'une possession.
Oui.
Et donc, les Raptors, qui sont à moins 1, décident de ne pas faire faute, mettent la pression. On trouve, je ne sais plus qui fait la remise en jeu, on trouve Schroeder qui commence à monter la balle et là, décide de faire une passe un peu risquée cross-court, qu'on le reconnaître, un peu risquée cross-court.
Violente, hein.
Un Evan Mobley qui est au niveau de la ligne à 3 points, dos au panier. Et
avec la ligne de touche là.
Et qui a Colin Murray Bowles dans son dos.
Ouais.
Colin Murray Bowles, il met la main, il tape la balle, ça retouche Mobley et ça sort.
L'arbitre.
Perte de balle. Gros call, mais bon call.
Oui, pas de temps mort pris. Côté Cavs, qui aurait pu avoir le truc, parce que attention à Kane Atkinson, j'en profite.
C'est vrai qu'un petit temps mort là, ça aurait pas fait de mal. Hein.
Un
non, mais je suis
mort.
D'accord, j'avais pas pensé comme ça, mais j'avoue.
Un temps mort, il y a beaucoup de fans qui étaient frustrés là-dessus. J'en profite aussi pour rappeler Kane Atkinson. Challenge dans le premier quart-temps perdu dans des situations de match comme ça, ça a rendu fou aussi les fans des Cavs parce que c'est une situation que tu perds où tu n'as plus le challenge jusqu'à la fin de la rencontre et c'est sur ce genre de série serrée aussi que tu peux faire la différence, tu sais, sur la fin de match.
Ouais, j'entends, mais tu vois, pour le challenge, je modérerais un peu, c'est pas profondément.
C'est 50-50.
J'avoue que moi. Beaucoup de gens disent c'était évident qu'ils allaient le perdre. Fallait pas prendre le challenge.
Moi, c'est pas ça que je dis, c'est dans un match éliminatoire
tu
pour les Raptors.
Tu l'aurais pas pris pour le garder, en fait.
Tu le prends pas dans le premier quart-temps sur
ça,
une histoire de John Tyson.
J'entends, par contre.
On réfléchit parce que si tu le perds, t'es dans le caca. Et donc, quand en fin de match, tu as notamment une très bonne défense, je sais pas si tu as en contre-attaque de Donovan Mitchell sur Colin Murray-Boyles.
Et là, t'as plus de challenge.
Touche la balle avec son genou et tu n'as plus l'option 2. T'as tous les joueurs des Cavs qui regardent Kenny Atkinson comme ça. Et Atkinson,
il fait désolé, j'ai pas le challenge.
Je l'ai grillé il y a 2h15. En fait, c'est pas ça qui change la rencontre. Ce que je veux dire, c'est que.
On sait pas, parce que vu comment c'est serré. Hein.
C'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments à la charge de Kenny Atkinson où la série devient aussi un peu compliquée pour lui. Il y a beaucoup de doigts qui sont pointés. Parce que ne pas prendre le temps mort, certains choix qui sont faits, l'abandon des challenges et tout, ça fait beaucoup pour lui. Il y a des joueurs qui se sentent un petit peu, j'ai l'impression, laissés en plein dans le bras zéro par leur coach.
Ouais, mais on peut les comprendre. En tout cas, Kenny Atkinson, c'est sûr qu'il fait pas une très grande série. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis assez déçu.
Il se met des fans à dos et je
les comprends. Moi, je suis assez déçu.
Et je les comprends.
Toujours est-il que...
Tu mènes
et tu perds la balle qu'il ne fallait pas perdre. Après, c'est une perte de balle. Ok, Van Mobley aurait peut-être pu catch de manière plus costaud et puis mettre son épaule dans Colin Murray-Boyles pour peut-être qu'il y ait faute ou au moins que le mec puisse pas vraiment bien intervenir. On peut critiquer la prise de balle d'Evan Mobley, ce truc-là. Mais d'où Schröder fait cette passe?
Schröder lui balançait une bombe.
Pour moi, Schröder ne doit pas faire cette passe. Tiens, une boule de feu.
Ouais, bien sûr.
Tu peux l'attraper à main nue, s'il te plaît.
Tiens, une patate chaude, vas-y, s'il te plaît.
Tiens, regarde, je vais sortir les braises du four et je vais te les lancer dans la gueule. Vas-y, démerde-toi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Tout à fait. D'autant plus que Evan Mobley fait un excellent match au global.
Ah ouais.
Et a répondu présent, a été clutch, a été dans l'agressivité, ce qu'on avait pointé du
doigt
en disant qu'on attendait davantage.
Il a fait du bien.
Il a été très très fort. Mais, avec tout le respect que j'ai pour lui, même si tu sens qu'il est chaud. Je ne sais pas si ce serait sur un parquet où il y a Dennis Schröder, Donovan Mitchell, James Harden. Je ne sais pas si c'est le mec à qui je donne la balle pour mettre deux lancers francs. En tout cas, c'est pas la première option. C'est-à-dire que Schröder est plus adroit, Donovan Mitchell a plus d'expérience.
Tu parles de quelle action là?
Pourquoi Schröder lâche la balle à Evan Mobley?
Attends.
Juste si Schröder slalome et garde la balle et capote sur lui.
Je donne pas la balle à Evan Mobley. Mais pour moi, ce n'est pas la faute d'Evan Mobley, c'est ça je veux dire.
Mais c'est la faute de Schröder.
Ah voilà, oui, merci.
C'est que vu que Schröder est sur le parquet, à l'expérience, est à 7 sur 8 au lancer, est un mec qui a
déjà montré garde la balle, c'est tout.
Tu gardes la balle et c'est tout.
Voilà où Evan Mobley, on peut peut-être lui reprocher quelque chose, c'est qu'au lieu de se planter comme un con à la ligne à 3 points, viens faire des écrans gros.
Ouais.
Pourquoi pas? Non mais on peut lui. Si tu veux vraiment lui reprocher quelque chose,
moi je lui reproche.
Dis-lui de venir se mettre au milieu du truc, pas de demander moitié à 3 points, tu vois.
Je pense que quand on revoit l'action, je pense que juste comme tout le monde, il ne s'attend pas à recevoir la balle.
Ah non, bah ça c'est sûr.
Bah ouais.
Jamais.
Mais donc du coup, moi aussi on peut dire quelque part que
non,
je suis d'accord avec toi.
Il est pas au bon endroit.
Il est pas au bon endroit, mais s'il est pas au bon endroit, c'est peut-être pour une raison. C'est parce qu'il s'attend pas à avoir le ballon là.
Il faut
quoi.
Pas lui donner.
Oh putain.
Schröder qui est là pour son expérience et tout, là pour le coup c'est un chiage.
C'est terrible parce que du coup, alors que t'as un gros match de Mobley, t'as Donovan Mitchell qui était cradingue et qui commence à se réveiller dans le Money Time, tu te dis allez, t'as même du gros 3 d'Evan Mobley et de Dean Wade dans les corners comme tu l'as bien précisé Alex, tu te dis bon, Jarrett Allen est présent, c'est un match que les Cavs vont prendre, mènes de 1 point.
Parce qu'après, sur la dernière possession là, des Raptors, moi j'ai pas forcément à redire tellement sur la défense des Cavs, par un shoot à 9 mètres de RJ Barrett. Tu vois, genre...
Exceptionnel.
Bon, il l'a mis. Et il a eu le rebond favorable, comme on dit hein, dans le jargon. Le shooter's touch.
Mais attends, c'est bien défendu par les Cavs. Hein,
voilà, c'est ça ce que je veux dire.
Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises...
Ça me va, moi, je veux dire. Mais ils font pas faute, ils repoussent loin, ils obligent une équipe qui a pas de très grand shooter extérieur à shooter de loin. Enfin, genre voilà, quoi.
Tu me dis, mais je crois sur l'action. Et d'ailleurs, RJ Barrett en a parlé post-game. Il dit à Scotty Barnes, parce que Scotty Barnes va avoir la balle, si tu sens que t'as pas une position de tir, donne-la moi. RJ Barrett a dit ça en post-game et je trouvais ça hyper intéressant.
D'accord.
Scotty Barnes a la balle, le chrono commence à défiler.
Il drive un peu là.
Il drive
Scotty
un peu.
Et, il
et les Cavs viennent close out sur Scotty Barnes.
Tu m'étonnes. Ah, bah ça c'est normal
parce que tu sais que Scotty Barnes il peut avoir du lancer.
Tu veux pas qu'il fasse un flotteur.
Un beau offensif avec Colin Murray-Boyles, etc. Et il lâche. Non, pas une patate chaude, mais
pas
la
ouf.
Passe.
Oh, ouais, j'avoue.
La passe torse, elle touche les orteils. RJ Barrett, il la récupère comme un carton de déménagement, quoi. Et c'est vrai que, à ce moment-là, c'est la magie des playoffs. Le shoot de RJ Barrett, un bon shoot du point de vue du staff défensif des Cavs.
Ouais.
Mais c'est le gamin
c'est
de Toronto.
De c'est un fond de cercle
qui rentre.
C'est
un fond de cercle qui quasi touche la caméra, retombe. Mais vraiment comme
ficelle.
Une bombe, ficelle. Et c'est le gamin de Toronto qui vit le plus grand moment de sa carrière, en fait,
énorme.
Parce que ce shoot ne rentre pas.
C'est fini.
Bah,
la série est finie.
Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si ça rentre pas, vu la gueule du shoot, à mon avis, ça continue à rebondir et le chrono il s'écoule.
Ouais, il reste une seconde.
Ouais,
hein,
c'est
donc
ça.
À mon avis, elle s'écoule en bonne partie.
Ouais,
enfin,
ouais,
à mon
ouais.
avis, il y a le temps de remettre en jeu.
Je sais
même pas s'ils ont le temps de faire faute.
Non, c'est sûr.
Parce que ça aurait été Balcavs.
Oui. C'est un shoot qui sauve une saison. Et qui prolonge l'aventure.
Et puis avoir un tip-in de Colin Murray-Bowles peut-être, éventuellement, à la Hakim.
Qui est extraordinaire, hein. Moi je ne veux plus entendre parler de Jakob Poeltl. Hein. Il y a des gens qui se demandent encore qui est le pivot du futur des Raptors, parce que je crois que là, est-ce que, putain, encore, on a Colin Murray-Bowles en iso sur James Harden en mid-range, et il tient, ce gamin est très spécial.
Ouais.
Oh, le combo lui-Scotty Barnes, parce que pareil, hein, je crois qu'on en parlait tous les deux après le tournage hier.
Ouais.
Scotty Barnes est en train de montrer quand même.
Il fait son match encore hier.
Il fait une série, il fait un match encore hier. 25 points, 7 rebonds, 14 passes, 3 contre 3 interceptions.
La création.
Création. Continuer dans tous les sens, à donner, à montrer l'exemple. C'est... Quand tu abordes le Game 7, là, Alex, tu penses quoi ? Est-ce que ce sont les Cavs qui peuvent le regretter, ou est-ce que la fin de match qu'on a vu avec les efforts défensifs vont se traduire sur le Game 7 et Cleveland va dérouler ?
Dérouler, on leur souhaite, mais
il y a un scénar.
Ouais, il y a un scénar. Ouais. Bah, c'est pas le plus probable, je trouve. Non, je garde Cavs qui gagnent chez eux le Game 7.
Pareil.
Je trouve que ils ont le chemin, ça se voit. Alors c'est vrai qu'ils sont pas très bien coachés. Je suis vraiment déçu de Kenny Atkinson sur cette série. C'est ça se voit. Ensuite, le duo Harden-Mitchell est bien ciblé défensivement. Hein. Les Raptors, eux, sont bien coachés et appliquent vachement bien la tactique. Mais dans le combat, Allen et Mobley ont montré que pouvaient regarder droit dans les yeux les Colin Murray-Bowles, les Scotty Barnes, les RJ Barrett, les machins, sans problème. Enfin, sans problème, ils peuvent. Mm-hmm. Donc, à la maison, pour moi, Cleveland doit et va faire le travail. Et va passer.
Pour moi aussi, les Cavs passent.
Mais autant les Pistons, je serais mais tellement surpris qu'ils fassent pas le Magic, tu vois, au Game 7, je serais surpris de ouf. Autant là, les Cavs, il y a des chemins genre où ça déroule pas, justement, tu vois. Il y a des chemins où le meilleur joueur de ce Game 7, ça commence par Scotty, ça finit par Barnes. Hein.
Ça, c'est même probable.
Attention,
vu la physionomie de cette série.
Mais c'est pas normal.
En fait,
Donovan Mitchell, il doit envoyer plus que des demi-cartons.
Oui. Je pense que, je pense qu'il existe quand même un scénar dans lequel les Cavs déroulent, qu'avalanche, tu vois. C'est-à-dire grosse réussite
les
à 3 points.
Qui rentrent et tout.
Et
ouais.
Parce que l'attaque de Toronto, là encore une fois, Cleveland peut se mordre les doigts. Bon, et on est en overtime hein, pour avoir 112 points côté Raptors, mais il y a mieux à faire encore côté Cleveland, je trouve. Parce que tu as eu notamment du Jacoby Walter qui a bien pris. Il fait une super fin de série, là, Jacoby Walter, en étant titu.
Il rentre des tirs.
Il rentre ses tirs.
Il fait du bien.
Mais je t'avoue que le finish est très difficile pour les Cavs hier soir, mais j'ai aimé les. Allez, l'overtime, c'est 5 minutes. Le quatrième quart-temps, c'est les 6 dernières minutes. Je dirais que les 12 dernières minutes des Cavs me donnent grand espoir pour le Game 7.
Oui,
je pense qu'ils comprennent défensivement ce qu'ils doivent faire et que si les shoots rentrent comme ils sont capables, ça peut être très, 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 très dur pour les Raptors.
Et même offensivement, c'est-à-dire qu'il y a le côté shoot qui rentre, évidemment, grosse variable du basket moderne, surtout les shoots lointains. Mais il y a aussi... genre, il faudrait que les Cavs, autrement que dans l'urgence, quand ils sont menés de 10 dans un quatrième quart, recommencent ce qu'ils ont fait lors des deux premiers matchs, c'est-à-dire des pics bien francs, Harden et ou Mitchell qui attaquent vraiment la raquette des Raptors, qui resserrent. Et là, il y a des bons kick-out parce qu'on a des énormes passeurs et il y a plein de shooters. Ah. On a un peu manqué de ça là sur match 6 notamment, où on a l'impression que ça joue autour de la raquette. Quand ça joue autour de la raquette, ça intéresse les Raptors. Hein.
Ah, bien sûr.
Tu vois ?
Ah, tout à fait.
C'est trop resserré. Enfin, bon, bref.
Ça, ce sera ce dimanche soir. Oui. La pression est sur les Cavs. Les Raptors ont fait leur saison. Là. T'es retourné en play-off, t'as forcé un Game 7, t'as le gamin de la ville qui a mis le shoot de l'année. Donc, Toronto va y aller plutôt avec la pression, mais avec une forme quand même de liberté par rapport à des cases où s'il y a des mecs qui font pas leur boulot en Game 7 à domicile au premier tour, ça va claquer des dents. Et nous, lundi matin, on va être ici sur YouTube, frérot, ça va être...
je te confirme.
Moi, j'attends des matchs très très forts de la part des cases.
C'est quoi qu'on va faire comme preview ? C'est une preview
c'est
de Raptors Magic ?
Yes.
Il y a les 11 qui demandent pour les logos. Non, mais franchement.
Oh. On termine. Avec le Game 7 de ce soir. Ce samedi soir, Celtics Sixers, Boston menait 3-1 dans la série, direction Philly, puis Boston. On va jouer ce Game 7 au TD Garden avec apparemment, Jason Tatum qui va jouer, malgré l'incertitude sur le mollet. On est tous là à claquer des dents parce que certes, c'est pas un Mencken, mais attention, on le sait qu'en sortie de tendon d'Achille, ça peut rééquilibrer sur l'autre jambe. Attention, attention.
Ça ressemble fort à une blessure de un peu de compensation.
De compensation, tout à fait. Et donc, Boston, Alex, menait 3-1. On s'était dit que ça allait finir le job. Énorme bravo et félicitations à ces Sixers. D'abord porté par un énorme Joel Embiid et Paul George duo là sur les matchs.
La série de Paul George.
La série de Paul George.
Franchement,
c'est de la nostalgie.
Celle-là, je l'avais pas dans mon bingo. Sur la fin de saison, il avait commencé à reprendre du rythme quand il est revenu après sa suspension.
Non, là, c'est bonheur.
C'est bien ce qu'il fait à Jalen Brown. Non,
et Game 6, là, il a été splendide. Hein.
Ouais. Ils sont dangereux, hein, ces Sixers. Hein.
Il y a plein d'éléments hyper intéressants. Il y a de la grosse pression sur ces Celtics qui sont favoris sur le papier. Mais retour de Embiid. Après l'appendicite, avec du bon match, Paul George qui est chaud, Tyrese Maxey qui, je tiens à souligner, fait aussi des efforts défensifs qui m'ont bien séduit.
Je suis d'accord.
Sur une fin de série où il faut faire ces efforts-là. Alex, comment tu vois ce Game 7? Parce que c'est un peu plus court là comme section, puisqu'on avait pu voir les deux derniers matchs entre ces Celtics et Sixers.
On a un peu plus débriefé cette série, c'est vrai.
Tu penses que Boston fait le travail à domicile? Ou est-ce que tu vois les Sixers créer l'incroyable?
Je sais pas, je me demande s'il n'y a pas justement pas mal de paramètres réunis pour un incroyable exploit des Sixers.
Je crois que Philly va le faire. En fait, je veux pas, hein, parce que j'ai mis Boston loin. Et... Non, mais tu vois, je veux dire pour Boston.
Moi, je veux bien. Franchement.
Mais je pense que Philly a.
Franchement, j'aime bien
chances.
Cette équipe. Ouais. Mais. Pardon, excusez-moi. Attends, excuse-moi.
Je t'en prie. Je vais en parler pendant ce temps-là. Mais nos amis de Philly, là, ils ont. C'est le. Quelqu'un en avait parlé sur les réseaux la dernière fois et je trouvais ça assez drôle. On dit toujours qu'il y a un côté un peu bouton on-off et qu'une équipe parfois c'est trop tard pour être aligné au bon moment. T'as, les choses sont bien alignées là pour Philly là, sur ce Game 7. Tu as Embiid qui revient, t'as Paul George qui est en forme, Tyrese Maxey fait les efforts, on a vu ce que pouvait faire Vidi Edgecombe, Quentin Grimes, certains gars du banc. Genre franchement, ce groupe peut aller très très confiant à Boston. Quoi.
Puis t'as les boules. Embiid, il a les boules. Embiid, il a déjà battu Boston sur une série de playoffs, Embiid ?
Non, je crois pas.
Bah, il joue pas tout seul, hein, mais vous m'avez compris, les Sixers d'Embiid, je pense pas. Hein.
C'est un des plus grands accomplissements pour Embiid dans sa carrière, si là, en Game 7, en remontant 3-1, lui et les Sixers battent Boston. Alors, il n'y a pas alors Ford, certes, en face, hein, qui lui a souvent joué des problèmes, mais là, c'est une opportunité de fou pour Joel.
Sans parler du fait que, clairement, Jason Tatum ne sera pas à 100%.
Ouais, ouais.
Les Celtics prennent des risques, à mon sens, à le faire jouer. Après, je suis pas médecin. Si les médecins lui disent qu'il peut jouer, si les médecins disent que c'est possible, voilà. Après tout, voilà. Que Jalen Brown, par contre, ça joue plutôt en faveur des Celtics. Jalen Brown sort d'un match vraiment un match 6 pas terrible. Il y a peut-être moyen que le gars il a envie de dire oh, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je suis vraiment le meilleur two-way de la ligue.
Le banc est-il uniquement dépendant de Peyton Pritchard ou est-ce qu'il y a d'autres garçons qui peuvent aider?
Voilà, Matsula, est-ce qu'il s'entête encore offensivement à faire le même match? Parce que les Sixers savent, là ils viennent, sauf à ce que Matsula propose des ajustements offensifs, les Sixers savent ce qui va se passer en attaque côté Celtics. C'est vrai.
Donc, c'est pas trop le cas de l'autre côté.
L'autre côté, tu sais pas.
C'est
trop
compliqué.
Ouais, Nurse profite bien des différentes options qu'il a. Mm-hmm. Il file le ballon dans les mains de Paul George, le ballon dans les mains de Tyrese Maxey évidemment, le ballon dans les mains un peu plus statique au poste mais de Joel Embiid, le mid post,
même plus haut, hein, encore.
Le mid post, ouais. Tu vois, le mid post un peu même parfois presque à 3 points et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans ballon là, les Vidi Edgecombe, Kelly Oubre ou ces gars-là,
Quentin, ouais, tout à fait.
Quentin Grimes ou comment il s'appelle là, mince, le pivot remplaçant, André Drummond, tu vois, qui bon, fait pas la série de sa vie mais
non, mais qui va mettre une tarte à Jalen Brown si c'est nécessaire.
C'est un backup, ouais, il prend ses rebonds, il met ses grosses épaules là pendant les minutes où Embiid se repose. Ils ont pas mal d'options, c'est vraiment une série et franchement c'est clairement pour moi c'est le Game 7 le plus indécis. Vraiment, c'est le plus indécis. Je trouve que les Pistons ont vraiment un avantage là sur le Magic, je trouve, après ce qui vient de se passer au Game 6.
Oui.
Je trouve quand même que les Cavs à la maison, même si les Raptors se battent super bien,
ah, dit,
comme tu l'as dit,
Cavalanche
et tout machin.
Celtics Sixers, j'en ai
Je pense que c'est le plus indécis. Je pense quand même que les Celtics vont finir le boulot.
Eh ben, je vais créer l'histoire et le choc et je pense
mais
que Philly...
J'entends complètement. Je suis pas du tout serein avec mon pronostic, tu vois.
Et vous savez, hein, mes copains de Boston, moi notamment, je trouve que la saison a été exceptionnelle et qu'elle mérite d'être prolongée.
Oh, ce serait incroyablement incroyable.
Incroyablement incroyable, il n'y a pas mieux que de dire ça. Mais je
Parce que moi, tu vois, quand on a fait les previews, j'ai re-regardé ce que j'ai dit. Donc moi, j'avais dit 4-2 Celtics. Ouais. Et je suis là. Et on a une discussion à un moment parce que je suis là. Je dis, tu sais, ils ont quand même pas mal d'armes offensives variées.
Ouais, c'est un faux
qui peuvent permettre, c'est un peu un faux set avec des belles armes offensives variées qui peuvent permettre de vraiment faire chier la défense des Celtics. C'est vraiment ce qu'on voit dans cette série.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc les soirs où... sur les 53 points qu'ils prennent, là, ils en mettent pas un bon pourcentage. Les Celtics, tout de suite, les Sixers sont dans le match.
Les Knicks vont regarder ce match à la télé.
Oh bah là, les Knicks, ils sont comme ça. Hein.
Hey, les Knicks, ils sont
hey,
time. Hein.
Attends, on va jouer qui? On va jouer le Thunder ou les Spurs?
On peut avoir un game 8.
En finale NBA, on va jouer le Thunder ou les Spurs, tu crois?
C'est que les Knicks, c'est un chemin. Hein.
Ah voilà, mais c'est plus qu'un chemin.
Aujourd'hui, là, les Knicks,
là, t'es les Knicks. Ouais, tu regardes tout ce qui se passe dans les autres séries de l'Est.
Changez pas les confs, les
frères. Tu dis, attends, qui c'est qui peut nous battre? Personne peut nous battre, là-haut, les gars.
Non, bien sûr.
Et c'est compréhensible.
Et bien sûr, bien sûr.
On n'y est pas encore, par contre. On n'y est pas encore.
Moi, je veux bien l'avis des fans de Boston et de Philly, évidemment, parce qu'il y a claque dedans, hein, là, pour ce soir. Là, ça va être très, très chaud au TD Garden.
Qui a le plus la pression?
Oh, Boston.
Ah,
Boston,
on est bien d'accord. Non, hein.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'ils ont les moyens de gérer cette pression? Oui. Ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs qu'on a vu d'autres.
Bien sûr.
Mais ils ont la pression bien plus que les Sixers s'ils perdent. On va dire belle série, franchement.
Bravo, remontada de dingue. Ouais. Ouais, tout à fait, il va avoir gagné. Mais je
remonterai un 3-1.
Je m'attends avant tout à cet impact défensif des Celtics que j'ai trouvé moins bon sur certains moments clés de cette série. Notamment quand VGHCOM avait pris feu et que la série se relançait pour Philly, ou en tout cas existait.
J'aimerais,
avant même de parler de tir, d'attaque, etc., que Boston ait cette défense suffocante comme ils sont capables de l'avoir. S'ils l'ont, ça va être une soirée très compliquée. Et en même temps, tu me dis, tu prends trois joueurs de chaque équipe qui est capable de vraiment prendre feu, ou en tout cas de faire un match de All-Star. J'en ai deux du côté de Boston et on va voir pour le troisième. Et j'en ai peut-être trois du côté de Philly.
Je répète, je trouve que le potentiel offensif de ces Sixers est vraiment super intéressant.
Dites-nous ce que vous pensez de ces Game 7 ce soir, Celtics Sixers. Demain, Pistons Magic, et ce sera suivi par Cavs Raptors. Comme on vous l'a dit, ensuite il y aura des previews que vous allez retrouver sur cette chaîne. C'est un gros week-end de Game 7, donc profitez au maximum. On va être là sur les réseaux, on va tout relayer, tout vivre ensemble. Et puis bah, après, c'est comme d'hab, le marathon continue. Demain, on va encore tourner. Lundi, on retourne. Mardi, on retourne. Ça continue, quoi.
Ça continue. Ça continue encore et encore.
On est bon ?
C'est bon.
On fait des gros bisous. Très bon week-end de Game 7 à toutes et à tous.
Ciao.